7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiech.
Bonjour les voisines et les voisins. Aujourd'hui 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur choisi par l'UNESCO depuis 1995. L'occasion pour nous, les voisins, de faire un état des lieux et de nous pencher sur cette notion de droit d'auteur un peu floue. Le besoin de protection des auteurs est universel. La définition du droit d'auteur l'est-elle? Où se situent les différences entre les pays? Et pourquoi sont-elles importantes? Faut-il et peut-on lutter contre ces disparités? Comment les pays s'organisent-ils pour garantir à leurs ressortissants la jouissance de leur propriété intellectuelle? L'importance de baliser le terrain est évidente et pourtant les critiques ne manquent pas. Des droits trop stricts de protection ne contribueraient-ils pas à creuser des fossés déjà grands entre pays riches qui profiteraient entre eux de leur savoir et pays en développement, donc en quête de précieuses données qui leur seraient confisquées car trop onéreuses? Et puis à notre ère du tout numérique, hackers et téléchargements illégaux compris, la protection des données intellectuelles est-elle encore possible? Pour aborder avec nous ce sujet aussi complexe que crucial, avec nous en studio, Emmanuel de Rangervé, bonjour.
Bonjour.
Délégué général du SNAC, c'est le syndicat national des auteurs-compositeurs. Patrick Boiron, bonjour.
Bonjour.
Avocat, associé du cabinet KGA, spécialiste des droits d'auteur. Et avec nous depuis Yaoundé au Cameroun, Solange Dao Sanon, juriste chargée du droit d'auteur et des questions émergentes à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Bonjour madame.
Oui, bonjour Anastasie.
Et puis il y a vous, les voisins, au standard de 7 milliards, au 33 1 84 22 71 71. Vos questions, vos réflexions, vos remarques sont les bienvenues. Emmanuel de Rangervé, aujourd'hui plus que jamais, la protection du droit d'auteur paraît centrale. Quels en sont les enjeux?
Je ne vais pas être trop technique et je laisserai d'ailleurs le soin à Maître Boiron de l'être peut-être un peu plus que moi.
Surtout
moi,
pas.
Moi, je voudrais simplement vous parler du droit d'auteur par rapport aux auteurs et aux compositeurs, oui, que je représente. Le SNAC est une organisation professionnelle qui représente différents secteurs de la création, des auteurs et des compositeurs dans les secteurs du livre, de l'audiovisuel, de la musique et du spectacle vivant.
Donc, et c'est on a comme une ça palette, depuis combien de temps?
Depuis 1946. On a une palette qui est assez large. On ne représente pas les peintres, plasticiens, photographes, même si je peux connaître certaines choses concernant ces populations-là. Le droit d'auteur, c'est d'abord et avant tout un statut juridique qui va permettre aux auteurs de vivre d'un métier ou de vivre d'une activité professionnelle.
Donc le droit d'auteur
plus
transforme
ou moins,
ce qui peut être vu comme une activité ou un loisir en une activité rémunératrice. Ben,
c'est-à-dire, en fait, le droit d'auteur, c'est le statut juridique sur une œuvre de l'esprit, mais par voie de conséquence, c'est sur celui qui a créé cette œuvre de l'esprit. Et donc, c'est donner un moyen, que ce soit le droit d'auteur ou le copyright d'ailleurs, le système est le même. Mmh. Il faut d'abord le prendre, moi je le prends d'abord, le droit d'auteur, comme étant le moyen juridique pour permettre aux créateurs de créer des œuvres. Et donc, d'apporter à la communauté internationale des œuvres qui vont faire l'intérêt de la vie, c'est-à-dire des créations, l'imaginaire, tout ce qui va faire la diversité culturelle. Donc, défendre le droit d'auteur, c'est pas uniquement défendre les auteurs et les compositeurs qui créent les œuvres, c'est également défendre le public pour qu'il puisse avoir de nouvelles œuvres qui vont alimenter leur imaginaire dans les différentes cultures du monde.
Il y a aussi la défense d'une espèce de patrimoine national.
Bien sûr, national, non, patrimoine personnel de l'auteur, de celui qui a créé des œuvres. Si c'est un métier, il faut qu'il puisse tirer de ce métier des moyens de vivre. S'il doit pouvoir tirer des moyens de vivre, il faut que soit organisée la cession de ses droits ou les utilisations possibles du droit sur ses œuvres auprès de cessionnaires de droits. Donc il ne faut pas confondre. Pour moi, le droit d'auteur n'est pas un combat entre les auteurs et les consommateurs, ou entre les auteurs et les citoyens. Le droit d'auteur est d'abord et avant tout un rapport entre les auteurs et ceux qui vont diffuser ou exploiter les œuvres. Et après, il y aura une question qui se posera sur la communication de l'œuvre au public.
Voilà. Pour dans creuser première, dans cette définition des droits d'auteur, du droit d'auteur, Patrick Boiron, le terme qui va avec, qui est propriété intellectuelle, est critiqué pour son ambiguïté, parce qu'il regroupe différentes idées un peu hétéroclites aux yeux de certains. On a entendu le mot copyright tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on doit parler de droit d'auteur? Est-ce qu'on doit parler de copyright? Est-ce que comment organiser, comment l'appréhender surtout?
Oui, je crois qu'il est important à ce stade de faire une distinction donc entre deux systèmes qui sont des systèmes majeurs, qui sont ce que j'appellerais le droit d'auteur, et c'est très bien de le mentionner comme droit d'auteur par opposition à copyright, et le système dit du copyright. Il s'agit de deux logiques différentes. Très simple. La première, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, il naît, alors un peu d'histoire, mais pas pour
c'est nécessaire,
pour éclairer le propos.
De savoir où on va.
Le droit d'auteur, il naît à la Révolution française, d'accord, et il naît avec une définition qui est une définition de patrimoine, j'ai envie de dire intellectuel et lié à la personne. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien à la notion de droit d'auteur si on ne comprend pas que c'est l'émanation de la personnalité de l'auteur.
Il naît quoi, avec l'imprimerie en fait?
Alors, il naît certes avec l'imprimerie, mais la reconnaissance d'abord du droit des éditeurs va être reconnue en quelque sorte à la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la conception du droit d'auteur qui va irriguer, j'ai envie de dire, toute l'Europe continentale, qui va se développer, et à cet égard, la France a joué un rôle moteur dans la propagation de cette propriété, de cette notion de droit d'auteur. Et puis alors s'oppose, mais alors de manière très étonnante, à peu près à la même date, aux États-Unis, une notion qui est une notion économique. C'est-à-dire que si on lit ce que, à peu près à la même date, la Constitution américaine dit du droit d'auteur, elle l'analyse comme une réalité économique. Et là, le copyright est né. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes pour simplifier. L'un qui est le droit d'auteur, qui est fondé sur la personnalité de l'auteur, qui est donc lié, et on verra peut-être tout à l'heure la notion de droit moral par rapport au droit patrimonial. Mais on voit émerger d'un côté une personnalité et le droit qui s'attache à la personne, et de l'autre, une réalité économique. La première donnera le droit d'auteur, la seconde donnera le copyright.
C'est un peu le pragmatisme américain contre les idées la morale humaniste française.
Absolument.
Pourquoi les opposer au fond aujourd'hui? Est-ce que les deux ne fonctionnent pas ensemble, ne devraient pas fonctionner ensemble?
Pour moi, il n'y a pas d'opposition majeure entre les deux, c'est juste deux systèmes juridiques avec deux philosophies différentes, mais l'idée est la même, c'est la protection des œuvres de l'esprit pour permettre d'avoir une activité économique autour de la production, de l'édition des œuvres de l'esprit. Dans les deux systèmes, les créateurs vont pouvoir être rémunérés au titre de l'activité créatrice qu'ils vont avoir. Les modes de fonctionnement vont être différents. Par exemple, ce qui est caractéristique du système du droit d'auteur, c'est d'associer l'auteur de façon systématiquement ou le plus systématiquement possible à une rémunération proportionnelle à l'exploitation de l'œuvre. C'est-à-dire, plus l'œuvre connaît du succès, plus l'auteur va percevoir, quel que soit le niveau de notoriété de l'auteur. Dans le système anglo-saxon, parce que le copyright, c'est pas que américain. Hein. D'ailleurs, il est né peut-être, en fait, en Angleterre, oui. En 1631, le Copyright Act de la reine Anne. Donc, c'est même encore plus ancien que la Révolution américaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le système du copyright doit aussi rémunérer les créateurs. Donc, c'est des équilibres différents. Au lieu d'être rémunéré proportionnellement à l'exploitation de l'œuvre, et au lieu d'avoir en fait un investissement différé pour les producteurs, il y a un investissement qui est plus important au départ, parce qu'il faut quelque part qu'ils achètent les droits sur l'œuvre. Cela étant, pour les auteurs américains ou anglo-saxons les plus connus, que les choses soient claires, les équilibres sont là aussi, et ceux qui sont les plus connus, non seulement touchent beaucoup plus au moment de la cession du droit, mais en plus, ils continuent à être associés sur les exploitations mondiales. Donc, les deux systèmes se rejoignent dans une très bonne partie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là.
Mais... quelques bémols peut-être ce qui vient d'être dit. Le premier, c'est que aux États-Unis, comme fondamental l'œuvre est considérée dans une logique marchande, j'insiste bien sur ce point, tout est possible, et en particulier, premièrement, le fait que l'auteur n'est pas le titulaire des droits, mais c'est la personne qui l'emploie, c'est la théorie dite du work made for hire, c'est-à-dire que je prends quelqu'un, et les droits naissent, d'accord, sur la tête de celui qui l'emploie. Ce qui en France est très rare.
C'est une hérésie,
ça existe pour l'œuvre collective, mais ça fonctionne pas. Donc ça, c'est une première différence qui me paraît importante, c'est qu'il y a une espèce d'appropriation marchande de l'œuvre par celui qui va l'exploiter. Alors qu'en France, c'est l'auteur qui
va contribuer à sa notoriété.
Exact. L'auteur, il a un droit exclusif, il décide d'exploiter, il décide pas. Aux États-Unis, le système est un peu différent. Ça a une conséquence, c'est que par exemple, très concrètement, sur un film, Quand on arrive au bout du film, en France, le réalisateur, c'est lui qui décide, d'accord, de la fin du film. Mais bon, aux États-Unis, le final cut, c'est le producteur. Et il y a eu des bagarres célèbres, je pense à Bertrand Tavernier récemment, parce qu'il se trouve que, voilà, sur un film, dans La Brume électrique, etc., où il y a eu des guerres, où il y a eu même deux final cut. Celle du réalisateur, deux parce que Tavernier voulait pas lâcher, et celle des Américains.
C'est la loi française.
Le deuxième,
c'est le résultat d'un choc culturel.
Oui, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et la deuxième chose, c'est que, et là, Emmanuel l'a très bien dit, c'est qu'en France, il y a la rémunération proportionnelle est un élément de validité de la cession. Enfin, de l'exploitation de l'œuvre, d'accord. Alors qu'aux États-Unis, on fonctionne soit sur le mode du forfait très souvent, sauf les auteurs évidemment célèbres, mais aussi on fonctionne sur ce qu'on appelle le buy-out, c'est-à-dire qu'une fois pour toutes, ce qui n'est pas possible en France, je t'achète tous tes droits sur toute ta production.
Et tu ne viens plus rien me réclamer.
Et non, c'est fini. Or, cette logique de buy-out n'est pas possible en droit français. Il y a un article du code qui dit que la cession globale des œuvres futures est nulle. Donc, certes, les deux systèmes visent à promouvoir les auteurs, à développer la culture, mais dans des logiques que il me paraît important de replacer
culturellement qui sont quand même très différentes. Voyons comment ça se passe en Afrique. Contrairement aux idées reçues, Madame Dao, l'Afrique s'organise aussi, et ça ne date pas d'hier, pour protéger ses auteurs, tant bien que mal, n'est-ce pas?
Oui, bien entendu. Parce que l'Afrique n'est pas restée en marge de tout ce qui se fait au niveau international.
Oui.
Les États membres ont ratifié des conventions internationales qui sont obligés maintenant de mettre en pratique sur leur territoire.
Alors, quand vous dites les États membres, vous parlez des États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle.
De l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle réunit un certain nombre d'États. Et on a essayé de mettre en place un espace juridique commun pour les questions de propriété intellectuelle.
Et je disais que c'est une entreprise qui n'est pas récente. Cette organisation date de 1977.
Effectivement, elle n'est pas récente, elle date de 1977.
Et concrètement, comment l'organisme africain de la propriété intellectuelle s'organise-t-il, justement, pour protéger ses auteurs?
Alors, à la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, les compétences ont été clairement déterminées entre l'organisation et les États membres. Alors, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a en charge la mise en place des normes juridiques qui doivent régir le droit d'auteur dans la juridiction de l'OAPI. Mais la mise en œuvre de ces normes relève de la souveraineté des États membres. C'est ainsi que vous verrez qu'en plus de l'accord de Bangui, qui crée l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et qui établit des normes sur la gestion du droit d'auteur dans les États membres, vous verrez que chaque État membre a également une loi nationale sur ces questions-là et qui va plus loin que l'accord de Bangui en déterminant comment la loi doit être mise en œuvre, quelles doivent être les sanctions lorsque les lois sont violées au plan national.
Très bien. Alors, justement, nous avons sur Facebook, Madame Dao, une réaction. Celle de Malthus, en Côte d'Ivoire, qui nous dit « Ici, on a commencé à traquer les vendeurs de CD pirates et plusieurs lieux de vente ont été fermés. Mais il y a des magouilles au sein même du Burida, qui est le Bureau ivoirien des droits d'auteur, qui sont corrompus. En effet, si tu veux vendre des CD pirates, tu vas voir le Burida, donc le bureau en question, tu donnes de l'argent, tu dis dans quelle zone tu vas vendre, comme ça, le jour où il y a contrôle dans ta zone, on t'appelle pour t'avertir. Du coup, le Burida ne protège plus les artistes, mais les pirates. Qu'est-ce que vous répondez à Malthus, Madame Dao?
Là, c'est une question à laquelle je ne peux pas avoir de réponse. Étant entendu que, je ne pourrais pas parler de normes juridiques établies.
Oui.
Parce qu'une pratique de ce genre, je ne sais pas quelle preuve l'intéressé a pour faire de telles suppositions. Mais je ne pense pas que ce soit le rôle des structures de gestion collective de droit. Parce qu'il faut savoir que dans les différents États membres, ce sont les structures de gestion collective de droit, à l'image du Burida, qui est chargée de la gestion des droits des auteurs.
Oui.
Alors, je serais surprise que de tels organismes se mettent à collaborer avec les pirates pour violer les droits des titulaires de droits, alors que l'essence même de leur existence, c'est la protection des droits des titulaires.
Non, parfois, on a des surprises.
Bon, là, les surprises, tant que je n'en ai pas la preuve, je ne peux pas trop m'avancer.
Et c'est certainement très sage de votre part. Au standard de 7 milliards de voisins, un voisin malgache, il s'appelle Rivou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le bienvenu, Rivou.
Merci beaucoup.
Alors, dites-nous.
Allô. Oui.
Nous vous écoutons.
Eh bien, ici, à Madagascar, le cas, c'est comme ça. En fait, c'est la culture d'acheter des trucs originaux qui n'est pas encore trop malgache, parce que ici, là où tu vas, là où vous allez, il y a des trucs pirates, quoi. Par exemple, des CD, des photocopies, des trucs comme ça, quoi. Et bah, tout le monde les fait, mais bon, il y a les autorités, ils ont déjà pris des mesures. Il y a aussi des institutions qui sont établies pour lutter contre la piraterie des œuvres artistiques, comme l'OMDA, le MAPI, mais bah, jusque maintenant, ça n'a pas trop apporté de fruits.
Et vous, comment vous faites, Rivou? Quel consommateur êtes-vous? Est-ce que vous achetez des produits piratés ou pas?
Moi, en fait, moi, je n'achète pas, mais je récupère des données dans les disques durs de mes amis. C'est de la piraterie, je sais. Mais moi, je n'achète pas.
Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Belle journée à vous à Madagascar.
Eh ben, vous aussi, merci beaucoup d'avoir appelé.
Belle journée. Alors, messieurs Boiron et de Rangervé et Madame Dao, est-ce que la réaction, ce que Rive vous décrit, est condamnable ou pas, selon vous?
Non, mais on peut... Pardon.
Madame Dao?
Oui.
Oui, nous vous écoutons.
Oui, parce que là, il faut bien faire la part des choses. Tout ce que je dirais que le fait... d'acheter les produits de contrefaçon, les produits piratés,
oui.
c'est condamnable. Mais il faut faire la part des choses. Le consommateur qui s'adonne à cette pratique, est-il informé de l'impact de son geste? Parce que le plus souvent, lorsque le consommateur se rend sur le marché et qu'il voit deux produits qu'on lui présente sur le marché, et je crois que le plus souvent, on a tendance à aller vers ce qui est le moins cher.
Oui.
Mais le plus souvent, ils ignorent même que le produit qui est moins cher viole les droits. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui ignorent.
Donc c'est une question d'éducation pour vous, Madame Dao?
Oui, beaucoup ignorent encore ce que c'est que le droit d'auteur. Beaucoup ignorent qu'acheter un produit contrefait, c'est violer les droits des titulaires de droits. Ensuite, je prends l'exemple de la musique. Mais nous avons des musiciens qui sont adulés dans leur pays. Mais lorsqu'on va sur le marché, quand on voit par exemple les deux produits qui sont proposés, un produit original et un produit piraté, le plus souvent les gens vont vers ce qui est moins cher. Et ce faisant, ils ignorent même qu'ils violent les droits de cet artiste qu'ils adulent.
Bon, alors autant dire que l'organisme pour lequel vous travaillez a beaucoup de travail encore en termes d'éducation, de sensibilisation des populations aux problèmes que vous soulevez.
Oui, nous contribuons à ce que justement dans les États membres, il y ait de plus en plus de sensibilisation pour que le maximum de personnes soient informées.
Et justement, une émission comme la nôtre, Madame Dao, j'imagine que vous en conviendrez, contribue aussi à aller dans ce sens. Aujourd'hui, 23 avril, est l'anniversaire de naissance de Cervantes, de Shakespeare également, mais c'est aussi la journée mondiale des droits d'auteur, les voisins. Et on en parle avec nos trois invités, Emmanuel de Rangervé, Patrick Boiron et Solange Dao, que vous venez d'entendre à Yaoundé. Vos questions et vos réflexions sur le sujet sont les bienvenues au 33 1 84 22 71 71. Elles sont nombreuses et je vous lirai après le flash quelques-unes de vos réactions sur Facebook. On se retrouve après donc le flash.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Merci d'être avec nous les voisins jusqu'à 13h. Droit du livre et droit d'auteur sont notre sujet de discussion avec nos trois invités, Emmanuel de Rangervé, Patrick Boiron, et Solange Dao à Yaoundé. Avant le flash, Solange Dao, nous parlions de les difficultés que peuvent rencontrer les auteurs et donc ceux qui travaillent autour de leurs droits en Afrique, notamment parce qu'il faut sensibiliser les populations qui ont tendance, et c'est une question de pouvoir d'achat, à se tourner vers le produit le moins onéreux, sans savoir que en consommant de cette manière-là, eh bien les consommateurs détruisent les artistes qu'ils aiment pourtant. Patrick Boiron, ça vous a fait réagir?
Oui, ça m'a fait réagir parce que je pense que les pays développés ont un rôle à jouer en permettant plus facilement l'accès à des cultures, puisque finalement ces CD ne sont pas uniquement des CD locaux, mais sont des CD qui sont souvent des CD qui représentent le répertoire international, en donnant un accès local dans des conditions peut-être qui soient financièrement plus intéressantes que celles qu'on peut avoir en Europe. Il me paraît assez étonnant de constater que quand on voit la différence de niveau de vie entre un pays africain et par exemple la France, qu'un CD soit vendu au même prix, ça n'a pas
de sens.
C'est
une aberration.
Je trouve que c'est une aberration et ça ne peut qu'encourager la piraterie.
De toute manière, le mot est lâché, Emmanuel de Rangervé, c'est avant tout la protection du droit d'auteur, une question d'argent. Plus que vous, dans la première partie, vous avez exposé les différentes cultures de protection. Mais là, on arrive au nerf de la guerre.
Et encore une fois, si on considère que le droit d'auteur est le moteur des industries culturelles, c'est-à-dire ce qui va permettre de faire qu'il y ait des nouvelles productions, éditions qui voient le jour, il faut les financer.
Oui.
Il faut les financer avec une rémunération pour les créateurs, quelle qu'elle soit, que ce soit un paiement proportionnel ou un paiement forfaitaire. Et puis, il faut permettre à ceux qui vont les financer de pouvoir en retirer des recettes pour pouvoir amortir les investissements. Sinon, il n'y aura pas de production nouvelle. Il n'y aura plus de production nouvelle. Vous allez tarir la source. Donc, le débat n'est pas un débat dialogue Nord-Sud. D'une certaine façon, pour moi, c'est pas forcément le point principal. Il faut que ceux qui écoutent comprennent que la culture locale dans les pays africains est en danger aussi quand il y a du piratage. C'est pas que,
les productions
internationales. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas avoir un traitement différent pour les productions locales et les productions internationales. La protection doit être la même, quelle que soit la provenance.
Mais est-ce que c'est possible, ça, concrètement?
Mais c'est possible. Après, c'est une question de niveau, comme le disait Patrick Boiron. C'est une question aussi de raison. Mais les nouvelles techniques, le numérique permet d'avoir accès à des œuvres à des coûts inférieurs. Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant disponibles et qui sont dans le domaine public, donc qui ne coûtent rien.
Oui, mais vous savez comment ça fonctionne. Le consommateur aime la nouveauté.
Non, mais,
et il entend parler de telle
nouveauté,
production à l'étranger.
Il veut
la même chose là où il est.
Que le droit d'auteur, la rémunération qu'il va verser, c'est le moyen pour les gens qui font ces choses qu'il aime de pouvoir en vivre. Est-ce que le consommateur aimerait qu'on lui demande de travailler gratuitement, qu'on lui demande de faire des œuvres, d'être corvéable à merci gratuitement? C'est ça le problème. Pour moi, je voudrais revenir juste sur la question de condamnable. Le consommateur n'est pas la personne condamnable dans cette histoire.
Ben, celui... un petit peu.
Non,
pas du tout.
Je ne connais aucun auteur-compositeur qui dise à quelqu'un qui a en sa possession un exemplaire éventuellement illicite, qui dise tu es un voleur. C'est pas comme ça qu'il va traiter le problème. Par contre, celui qui a organisé la mise à disposition de tout ça, celui qui en fait commerce, qui gagne de l'argent, qui crée des circuits, là, celui-là, oui, l'auteur-compositeur lui en veut.
En même temps, celui qui organise, c'est parce qu'il y a une demande. Il répond à une demande.
Ah oui, mais alors c'est un vrai sujet. Ça. C'est-à-dire que celui qui produit de la drogue, il a le droit parce qu'il y a une demande.
Ah non, c'est pas une question de droit, mais est-ce que les responsabilités ne sont pas à partager entre les consommateurs?
Oui,
mais
elles ne sont pas à placer sur le même niveau pour moi. Je ne sais pas si juridiquement vous l'envisagez comme ça, mais pour moi,
Patrick
elles ne sont
Boiron.
Pas...
Non, je... Bon, Madame Daou a dit un mot qui est très important, enfin, ou l'équivalent, qui est pédagogie. Oui. Je crois que ça prendra du temps, mais c'est par là que ça doit passer. Je pense que, alors, bien sûr, il y a une différence sûrement entre le consommateur qui ne sait pas qu'il achète quelque chose de contrefaisant et celui qui a organisé le circuit. Il n'empêche que les deux doivent être informés. Et par exemple, en France, quand vous regardez, je sais pas, sur votre télévision ou, bon, un DVD, vous voyez, il y a, sur certains d'entre eux, un petit film qui montre le piratage et qui montre directement ce que c'est que voler. C'est-à-dire qu'il y a, alors c'est un peu violent peut-être, mais ça s'adresse au consommateur. Ce que je veux dire, c'est que il faut que le consommateur soit aussi conscient, d'accord, que, eh bien, il y a des règles, et bien que l'auteur, en effet, s'il ne vit pas de son œuvre, bah, il n'y aura plus d'œuvre, hein, truc assez simple, et que donc il n'écoutera plus rien. Bon, ça prend du temps, c'est de la pédagogie, et en parallèle, je crois qu'il faut en effet démanteler les réseaux qui sont à l'origine et qui se font de l'argent de manière illicite sur le dos des auteurs.
Madame Daou.
Oui, Anastasie.
Oui.
Je crois que lorsque l'on parle de la piraterie des œuvres, il ne s'agit pas uniquement des œuvres nationales. Parce que nous savons qu'un des principes fondamentaux du droit d'auteur, ça c'est un principe universel, c'est le traitement national lorsqu'il s'agit du droit d'auteur. Qu'une œuvre nationale soit piratée ou que ce soit une œuvre étrangère, le traitement elle-même lorsqu'il s'agit de sanctionner cette violation de droit. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que le consommateur, même s'il ne peut pas être condamné au même titre que celui qui organise la piraterie des œuvres, c'est que s'il y a piraterie, c'est parce qu'il y a consommateur.
Et oui.
Et c'est en cela que je disais que la sensibilisation était très importante, que le consommateur ne consomme plus de pays de produits piratés. Et par ailleurs, la sensibilisation, elle ne porte pas uniquement sur les consommateurs. Elle concerne même les décideurs dans les États. Parce que je vous assure qu'on a l'impression que jusqu'à présent, le droit d'auteur est toujours réservé à une certaine élite. Il y a beaucoup parmi les décideurs qui ne, j'allais dire, je ne peux pas dire qu'ils ignorent totalement ce que c'est que le droit d'auteur, mais leur compréhension du droit d'auteur n'est pas ce qui peut favoriser vraiment une protection effective et efficace de ce droit-là dans beaucoup de pays africains. Donc la sensibilisation, elle doit être de portée générale. Elle doit être de portée générale.
Et qui doit s'en charger, Madame Daho? Vous?
Pardon?
Et qui doit s'en charger, vous, à l'Organisation africaine?
Non, les États membres doivent le faire. Avec l'appui, bien entendu, de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, parce que c'est ça notre rôle également. Nous contribuons à faire en sorte que le droit d'auteur soit protégé d'une manière aussi uniforme et efficace que possible dans les États membres.
Mais est-ce que vous diriez aujourd'hui, Madame Daou, que cette action, d'abord peut être mesurée et ensuite qu'elle est efficace? On parle d'un organisme qui existe depuis 1977 et très régulièrement, les artistes africains dans leur grand ensemble se plaignent du piratage qui, loin de reculer, semble plutôt proliférer sur le continent. Et pas que sur le continent africain, d'ailleurs, en Asie, c'est une réalité aussi.
Oui, c'est exact, Anastasie. Il est exact que les titulaires, les artistes se plaignent. Mais ils se plaignent pourquoi? Parce que le droit d'auteur, c'est une notion qui évolue au rythme de l'évolution technologique. Les formes d'exploitation des œuvres protégées se développent, ça change de jour en jour. Et donc, c'est une lutte quotidienne, justement, pour faire suivre, pour que les droits d'auteur puissent suivre cette évolution-là. Mais je dirais que l'organisation joue son rôle. Le fait de soutenir les États membres dans cette sensibilisation-là, ne serait-ce que également dans l'établissement de normes communes qui doivent gérer cette question dans les 17 États membres.
Alors, vous parliez d'évolution, Madame Daou, l'évolution justement de la pratique, de la consommation et de la production également a été marquée par l'avènement du numérique. Alors, est-ce que le numérique va aller au secours ou plutôt freiner la protection des droits d'auteur, Emmanuel de Rangervé?
Pour le moment, c'est surtout une source de débat, de discussion, de demande d'évolution et de réforme. Du droit d'auteur ou du copyright, et en particulier au plan européen, avec des discussions qui sont maintenant... La question n'est plus de savoir s'il faut réformer le droit d'auteur en Europe, mais de savoir comment et sur quoi la réforme va intervenir. De savoir si on va raison garder, et conserver les fondamentaux du droit d'auteur.
Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui dans un monde
possible.
Où chacun peut prendre
c'est
ce qu'il veut
si on ne fait pas la part trop belle aux uns par rapport aux autres. Encore une fois, il y a
qui sont ces uns, qui sont ces autres.
Les auteurs-compositeurs, ceux avec lesquels ils signent des contrats, donc les cessionnaires des droits. Et puis il y a l'utilisateur. Et puis il y a des sociétés qui sont à la marge de celles qui jusqu'à maintenant étaient concernées, qui sont les possesseurs des tuyaux internet, les GAFA,
Facebook,
les entités qui
alors, GAFA,
ont
il faut,
pris.
Il faut décrire, il faut expliciter.
Il faut donner des marques. Google, Apple, Amazon. Et Facebook. Voilà. Donc, mais on a fait un acronyme et on parle de cela, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui existent et qui sont des possesseurs de tuyaux qui font des valorisations boursières qui sont colossales, qui font du chiffre d'affaires qui peut être colossal et sur lequel les contenus qui sont quand même ce qui va faire l'attrait éventuellement de ces entreprises. Ne sont pas rémunérés, ou quasiment pas rémunérés, ou rémunérés à la marge. Donc c'est là qu'est le problème. C'est le problème de partage de valeur, c'est le problème de transfert de valeur entre une économie qui était l'économie d'avant, l'économie des supports physiques, et l'économie de l'industrie culturelle dématérialisée. C'est toutes ces questions qui se posent, mais c'est pas pour autant que les fondamentaux ne doivent pas rester les mêmes. Dans le problème qui est évoqué là, c'est pas principalement le droit d'auteur qui pose problème. Enfin, il pose problème aux GAFA. D'une certaine façon. Mais ce qui pose problème, c'est les règles de commerce international ou de commerce électronique. C'est ça aussi ce qui pose problème. Or, dans les débats qui sont actuellement en cours, on parle de la réforme du droit d'auteur, de la volonté de la Commission européenne de réformer à marche forcée en posant...
Vous faites allusion au rapport Reda
Pas que, parce que le rapport de Reda est Reda. Quelque chose qui vient se greffer sur une volonté qui a été manifestée par la Commission européenne, par Jean-Claude Juncker, au début de son mandat, avec une lettre de mission qui a été confiée à son commissaire chargé de l'économie du numérique et du droit d'auteur, de proposer une réforme dans les deux ans qui viennent. Voilà. Bon, je vais laisser peut-être Patrick s'exprimer sur le sujet, mais pour moi, le numérique, c'est ça pose des questions de droit d'auteur, d'évolution de droit d'auteur, mais dans le respect de la cohérence juridique et le respect des intérêts fondamentaux des créateurs et des titulaires de droit. Ça ne pose pas que ces problèmes-là. Ça pose des problèmes également de commerce électronique, de partage de valeur, enfin toutes ces questions.
Des questions de civilisation, donc au-delà de uniquement des questions.
C'est un gros
de...
mot, mais c'est un.
C'est
mot
un grand mot qui ressemble bien, qui dit bien notre époque. Un peu de musique, il paraît que ça adoucit les mœurs. Celle de Gassanji, ne vous laissez pas détourner par les mots. Ça sonne japonais et c'est congolais. Ça veut même dire celle qui éveille les âmes. Tout de suite, c'est Nalingiyo.
Banga
ou presque Gassanji Nalingiyo, ça veut dire « je t'aime » en lingala. On continue, les voisins, à évoquer le droit d'auteur et on a évolué vers le numérique et le numérique vous intéresse beaucoup. Sur Internet, Christian à Kinshasa nous pose la question « quel est l'avenir du droit d'auteur avec l'évolution et le développement de médias comme YouTube, Dailymotion, etc. ?» Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Emmanuel de Rangervé. Et Christian continue en disant « en Occident, les ayants droit s'organisent, mais en Afrique où les moyens de la loi ne sont pas toujours à la pointe de la technologie, on en parlait un peu tout à l'heure avec Madame Dao, les lois ne peuvent pas s'appliquer, ou en tout cas sont difficiles à appliquer, à faire appliquer. Et face à cela, certains artistes piratent leurs propres œuvres pour passer outre leurs producteurs. Compliqué, Patrick Boiron, dans ce contexte de s'organiser.
Oui, enfin, on voit bien... pas le désespoir, mais je veux dire les logiques que peuvent sous-tendre cette espèce de impuissance que certains auteurs constatent par rapport au respect, si vous voulez, du droit d'auteur sur leurs œuvres. Alors, est-ce que pour autant il faut le considérer comme soit un pis-aller, soit une espèce de manière un peu désespérée de néanmoins produire ses œuvres? Je suis pas sûr. Et je voudrais à cet égard parler de ce qu'on appelle les licences libres ou les Creative Commons.
Qui s'oppose un peu, non, à cette notion de droit d'auteur?
Alors non, ça s'oppose pas à la notion de droit d'auteur. C'est tout à fait compatible, et l'ASACEM l'a bien compris, qui vient de signer d'ailleurs, il y a 2 ans, un accord avec précisément la structure Creative Commons. Donc c'est une reconnaissance. Si vous voulez, c'est une autre logique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'auteurs décident de mettre en commun leurs œuvres avec différents niveaux de licence. Certaines autorisent.
Et qu'est-ce qui détermine les niveaux de licence ?
C'est celui qui acquiert la licence. Certaines ne sont et le prix n'est pas le même. Il y a une absence totale de rémunération si c'est pour une exploitation non commerciale. Ça dépend également de l'auteur. D'accord, mais vous pouvez partager votre œuvre sans exploitation commerciale, avec une exploitation commerciale. Vous pouvez autoriser celui qui a la licence à la modifier. Donc, on a là des logiques intéressantes d'interactivité entre l'auteur et celui qui reçoit l'œuvre. Donc, il y a toute une espèce de communauté qui s'organise et dans laquelle le droit d'auteur n'est pas absent. Il continue d'être là, simplement, il s'organise, il s'adapte, et c'est ce qu'a bien compris, par exemple, l'ASACEM. Ça, c'est un élément qui, moi, me paraît intéressant.
Et qui marque une manière d'envisager ce droit tout à fait actuel.
Tout à fait.
Et
pour autant, il ne faut pas Emmanuel en faire un système Gervais. Juridique en tant que tel.
Pour quelle raison ?
Parce que, en fait, la volonté de l'auteur, elle a toujours été libre. Si l'auteur voulait partager avant quelque chose, il pouvait le faire. Là, c'est un système institutionnalisé. La seule chose qui pose problème sur les Creative Commons, c'est le fait qu'on ne puisse pas revenir sur un choix, et en particulier le choix de mettre le plus largement possible et sans aucune limite son œuvre à disposition. La règle du genre, quand un auteur crée une œuvre, quand il signe avec une entreprise pour la diffusion de son œuvre, il y a des obligations à la charge de l'entreprise. Dans tous les cas, dans le droit d'auteur, c'est comme ça. Il y a une obligation de publication, il y a une obligation d'exploitation permanente et suivie, il y a une obligation de rémunération. Si à un moment donné, l'auteur n'est pas satisfait de la prestation contractuelle qui lui est faite, il peut demander la résiliation du contrat. Et on ne peut pas demander la résiliation d'une licence Creative Commons. Mais autrement, le système de la libre volonté de l'auteur, pour les auteurs, ça a toujours été la règle, donc il n'y a aucun souci. Et on ne va pas faire une règle juridique générale pour...
Alors justement, la question de la règle juridique générale, je vous la poserai tout à l'heure, mais allons au standard de 7 milliards de voisins. Un voisin parisien qui s'appelle Abdelkarim va nous parler de sa manière de consommer. Bonjour Abdelkarim.
Bonjour. Bonjour Anastasia. Moi, j'ai fait le choix d'acheter certains albums et d'autres, je télécharge gratuitement sur Internet. Et pareil pour le cinéma, enfin il y a des films qui m'intéressent, si je veux les voir au cinéma, je télécharge.
Et qu'est-ce qui fait, où se situe la ligne de démarcation? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe d'un côté ou de l'autre dans votre panier?
Par exemple, moi j'écoute beaucoup de rap.
Oui.
Et récemment, enfin le dernier album que j'ai acheté, je crois c'était D'ici de la peste.
Oui.
Et ça me semble un artiste engagé, donc ça me plaît, j'achète. Et d'autres rappeurs, donc... J'aime le rap, donc je télécharge leur album, je l'écoute. Mais vu qu'ils... Voilà.
D'accord, donc pour vous, votre consommation, il y a les artistes que vous avez envie de soutenir, dont vous trouvez que la démarche est au-delà de juste de la distraction, une énergie, une dynamique à soutenir, et là vous ouvrez votre porte-monnaie. Et puis quand c'est juste de la consommation, disons plaisir, un peu fast-food comme ça, vous téléchargez.
Voilà, exact, déjà. Et pour le cinéma, pareil.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Abdelkarim. Bonne journée. Alors, on se rend compte avec le témoignage d'Abdelkarim, Madame Dao, Emmanuel Dorange-Hervet et Patrick Boiron, qu'il y a au fond deux types, de la même manière qu'il y a différentes cultures de protection des droits d'auteur, il y a aussi différentes cultures de consommateurs. En Afrique, Madame Dao nous disait tout à l'heure que sur le continent, très largement, les gens vont vers les produits les moins chers pour des questions de pouvoir d'achat. Ici, où le pouvoir d'achat est plus fort, au fond, on panache, on choisit là où on a envie de mettre de l'argent et en même temps on se donne le droit de consommer autrement. C'est bien ou pas bien ?
Non, c'est pas bien du tout.
Patrick Boiron.
Non, c'est pas bien. Si oui, le droit d'auteur, il est pour toutes les œuvres. On peut pas s'autoriser à faire une espèce de départ fondée sur d'ailleurs la qualité personnelle que soi-même on attribue à telle ou telle œuvre. Ça, c'est absolument pas possible.
C'est pas la liberté du consommateur ?
Non, c'est le consommateur, il a ce qu'on doit garantir au consommateur, c'est le libre accès aux œuvres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce libre accès est gratuit et ne rémunère pas l'auteur qui est derrière l'œuvre. Il faut distinguer. Et souvent la confusion, et c'est ça que je voudrais dire, la confusion est faite de manière assez pernicieuse par ceux qui défendent l'internet libre, etc. Alors il y a des notions sympathiques, mais derrière il y a une autre idée.
Donc c'est le mot liberté qui trouble en fait.
Oui, voilà. Et c'est souvent, je le dois le dire, utilisé à dessein de manière un tout petit peu désagréable. Parce que on peut dire à la fois que le numérique, c'est un avenir formidable pour les auteurs, puisque c'est une capacité de diffusion des œuvres qui a été inégalée dans le passé. C'est incroyable. Vous êtes dans le métro, tout le monde écoute de la musique. La musique se diffuse comme jamais elle a été diffusée. Donc, nécessairement, il faut que s'en déduise pour les auteurs, d'accord, une conséquence très positive. C'est pas le cas aujourd'hui. Et attention à ne pas mélanger les notions. La liberté d'accès aux œuvres, certainement, mais gratuitement, certainement pas.
Emmanuel Dorange-Hervet.
Mais que dire de plus ? Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Patrick Boiron. Le témoignage qui vient d'être fait ne me choque pas, ne me surprend pas.
Oui, la question n'est pas du choc. Non, la question n'est pas du choc. Mais est-ce que ça ne signe pas aussi le consommateur actuel ?
Le problème, c'est bien un peu ce que je laissais entendre tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, le consommateur, l'utilisateur, c'est important de travailler sur l'utilisateur, mais il faut surtout arriver à faire que ceux qui mettent à disposition, qui permettent d'avoir des œuvres de cette façon-là, avec aucune réticence morale, comme vous l'avez constaté. Oui. C'est-à-dire que c'est son choix, c'est sa liberté. Je fais ce que je veux.
Tout à fait assumé.
Je fais ce que je veux. Il n'y a pas de réticence morale dans ce témoignage. Mais ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Et il n'y a pas de réticence morale parce qu'il n'y a même pas la conscience qu'il y a un préjudice qui aurait été causé quelque part. Par contre, vous pouvez être sûr que ceux qui ont mis à disposition, ceux qui ont organisé le système qui fait que le témoin dont on a eu qu'on a eu là, tout de suite, comme tous les autres qui accèdent au même service, parce que c'est de la masse, on est sur des quantités, des volumes colossaux. Eux, ils savent. Eux, ils ont conscience. Mmh. Hein, que ce soit en cinéma, que ce soit en musique, eux, ils ont conscience. Et c'est là où est le problème, et c'est là où on va voir si l'Europe est consciente des enjeux de survie. Parce que là, on joue quand même, dans les 18 mois qui viennent en Europe, on joue un peu quand même la survie du droit d'auteur et des industries culturelles.
Carrément.
Un peu.
C'est la culture qu'on attaque.
C'est pas la culture, c'est ceux qui sont les éléments de la filière. Parce qu'à un moment donné, si on crée un système qui est plus d'exception que de droit, on va avoir quand même un gros problème pour avoir une cohérence juridique. Et en dehors de ça, c'est un gros problème parce que l'Europe ne fait pas la loi dans le monde, hein, comme vous le savez. Les règles de droit d'auteur, les règles de propriété intellectuelle sont fixées aussi dans des conventions internationales. On ne peut pas nier en Europe qu'on est obligé par des règles de conventions internationales.
Alors justement, est-ce qu'il faudrait rêver, je vous pose la question à vous trois et votre réponse succincte marquera la fin de cette émission, est-ce qu'il faut rêver d'une espèce de juridique, de législation internationale du droit d'auteur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Patrick Boiron d'abord, oui. Ensuite Madame Dao et enfin Emmanuel Dorange-Hervet, très rapidement.
J'ai envie de dire, elle existe. Les traités OMPI sont quand même assez nombreux. Il y a eu des conférences diplomatiques. En tout cas, pour ce qui concerne la musique, c'est entièrement balisé. Bon, l'audiovisuel, il y a eu quelques difficultés à cause des réticences des Américains. Et c'est des conférences diplomatiques auxquelles moi j'ai participé, en tout cas les dernières. Donc, mais il y a quand même une très grande réglementation.
D'accord.
Ce que je voudrais simplement, au niveau européen, c'est probablement le domaine où il y a le plus de directives. Il y a 9 directives qui traitent du droit d'auteur.
Donc porte sur quelque chose d'universel.
Non, je crois pas. Pour une bonne raison, c'est que le principe est universel, mais les cultures sont locales.
Très bien. Je garde cette très belle phrase de vous, Patrick Boiron. Emmanuel de Rangervé.
Pour faire court, je reprendrai la même.
Bon, très bien, Madame Dao. Est-ce qu'il faut une législation internationale universelle ?
Oui, mais moi je dirais, comme l'a dit Emmanuel, ça existe déjà cette législation internationale du droit d'auteur. Mm-hmm. Mais je crois que là où le problème se pose, c'est uniquement dans la mise en œuvre de ces normes juridiques-là. Et à ce niveau, donc, que l'on soit sur un continent ou l'autre, d'où vient dans un état ou l'autre, c'est-à-dire le niveau de mise en œuvre qui diffère. Et c'est là le défi du droit d'auteur. Et il y a une chose très importante qui a été dite entre-temps et sur laquelle j'aimerais revenir.
Très rapidement, s'il vous plaît.
C'est le libre accès et la gratuité. Il faut qu'on veille effectivement à faire la différence entre les deux notions, parce que les voix tendent à se lever de plus en plus pour justement défendre ce libre accès à la culture, ce qui n'est pas du tout synonyme de gratuité.
Voilà, merci. Merci beaucoup Madame Dao à Yaoundé. Merci donc à nos trois invités. Merci les voisins pour votre attention, ainsi qu'à l'équipe 7 milliards, Romain Dubrac, Jonas Mallet-Sollard et Léonore Krenik. Demain les voisins, c'est le 24 avril, date de commémoration des 100 ans du génocide des Arméniens. Nous tenterons de comprendre comment fonctionne la diaspora arménienne descendante des rescapés du génocide. À demain, belle journée sur RFI, le journal arrive.